של השכר. זה שבת פרשת תצווה. Ce Shabbat, c'est la Parsha Tetzaveh, et c'est également le 11 Adar. Et c'est également Parsha Zachor. Donc c'est une sikha dans laquelle on va retrouver la même Nekuda, dans le nom de la Parsha Tetzaveh, sur le fait qu'il n'y a pas le nom de Moshe. On va également retrouver le même point dans la guerre contre Amalek. Et également avec la date du 11 Adar. Tous les trois sont liés. Donc ça permet de faire le lien entre la paracha du premier Sefer, paracha Tetzaveh, la paracha du deuxième Sefer, qui est paracha Zachor, Amalek, et surtout cette année qui est le 11 Adar, qui n'arrive pas tous les ans. C'est une kviout qui est assez rare. Donc, c'est une sikha qui est de Tafshilametet. Et il y a des choses qui viennent de la sikha, d'autres qui viennent du Mahamar. Elle est dans le côté sikhot Chelek Rafalef. Elle est dans le Kovet cette semaine, la page 4.
Excuse-moi, c'est quoi le 11 Adar?
C'est ce qu'on va étudier. Une petite introduction avant de commencer la Sikha, essayer de parler de certaines choses qui sont citées dans la Sikha. Et après, on va étudier la Sikha sur texte. Donc, comme on a dit, dans la Sikha de cette semaine, on va étudier le lien entre la paracha de la semaine Tetzaveh, le lien avec Amalek et le lien avec le 11 Adar. Dans la mitzvah de lire la Megillah, c'est marqué ouvertement dans la Megillah que la lecture, elle se fait le 14, le 15, c'est-à-dire c'est marqué qu'on fête Pourim le 14 et le 15. On apprend qu'il faut lire la Megillah, mais la date de fêter Pourim, c'est 14 et le 15. Ensuite, c'est marqué Ayamim, les jours. De là, les Chachamim apprennent dans la Mishnah, Masechet Megillah et dans la Gemara, qu'on peut lire aussi d'autres jours. Pas que les jours qui sont cités dans la Megillah pour fêter Pourim, 14 et le 15. On peut lire également aussi le 11, le 12 et le 13. Point numéro 3, c'est une Gemara dans le Yerushalmi. Pas dans le Bavli, mais dans le Yerushalmi. Eh bien, c'est marqué que vu que c'est marqué le mois Chodesh, le mois, là on apprend que dans certains cas on pourrait se permettre de lire la Megillah depuis le premier. Comment ça se passe dans l'Halakha? Dans l'Halakha, il faut lire le 14 et le 15. Et que si un juif se trouve dans une situation où il est le 11, et part en voyage, et il sait qu'il n'y a aucune chance qu'il lise la Megillah, sans bracha, on lui dit de lire le 11, le 12 ou le 13. Après, le Rambam, il ramène que ça, c'est la même chose que Bidiavad, si déjà il ne pourra pas, même depuis le premier. Ça, c'est le Rambam qui ajoute. Il se base sur ce Yerushalmi. Donc ça veut dire qu'on a ici plusieurs dates pour lire la Megillah. On a le 14 et le 15, mais ça commence en fait depuis le 11. Alors comme il va dire dans la Sikha, même si depuis le 11 et le 12 et le 13, c'est que Bediavad et c'est sans bracha, que s'il peut pas, mais c'est déjà quelque chose. Après bien sûr, le Rambam ramène que déjà depuis le premier, dans certains cas. Alors, nous, on va s'arrêter dans cette sikha sur la Mishnah. La Mishnah, elle dit que la Megillah, elle est lue depuis le 11, depuis le 12 et le 13 et le 14 et le 15. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe le 11. Alors, dedans, il y a l'aspect pratique des choses. Après, bien sûr, on va comprendre que c'est plus profond que ça. Ça va nous permettre de comprendre que dès qu'on rentre ce Shabbat dans le 11, il y a quelque chose de spécial au 11 Adar. On sait que Purim, c'est lundi soir, mais il y a déjà quelque chose ce soir. On rentre le 11 Adar, c'est déjà quelque chose. Il y a déjà un début de Purim qui commence. Alors, c'est quoi ce 11 et le 12 et le 13? C'est quoi le symbole? À quoi ça représente? Pourquoi il y a ces jours? Alors, comme on va voir dans la Sikha, la Mishnah a dit, pourquoi c'est cette histoire du 11 et du 12 et du 13? Alors, il y a une histoire de Bnei Akfarim. Ce sont des gens qui habitent dans les petits villages. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui habitaient loin de la ville. Là-bas, il y a des champs. Là-bas, il faut labourer. Là-bas, il faut semer. Là-bas, il faut récupérer de la récolte. Et ils viennent tous les lundis, jeudis, dans la ville. On appelle ça Bnei Akfarim, les gens qui habitent dans les villages. Et l'Agma a dit que on les laisse lire le lundi, jeudi avant Purim. Et l'Agma Mishnah a fait un calcul. Si Purim est un jeudi, on parle du 14 bien sûr, alors ils vont lire jeudi. Mais si Purim est un mercredi, ils vont lire le lundi d'avant. Et si Purim est un dimanche, alors ils vont lire quand? Le jeudi d'avant. Si on fait un calcul que si Purim est un dimanche, ça veut dire que dimanche c'est le 14, Shabbat c'est le 13, vendredi c'est le 12, et jeudi c'est le 11. Donc, de là on apprend qu'à l'époque, il y avait des gens qui lisaient dans les villages, ils venaient dans la ville, ils savaient pas lire, ils avaient peut-être même pas minyan dans leur endroit où ils habitaient, et on les aidait, alors on leur facilitait la tâche.
Ils attendent jamais qu'ils mangent pour
eux. Pardon?
Ils attendent jamais qu'ils mangent
pour eux. Pour peut tomber dimanche, bien sûr.
Ah,
ouais.
Le jeune,
mais jeudi d'avant. Donc ça tombe dimanche, et à partir de là, il disait jeudi. L'Agma, elle rentre dans la question, elle dit, on va voir ça dans la Sikha. L'Agma rentre dans la question, elle dit, pourquoi on leur lisait jeudi? Alors, il y a dedans plusieurs points. Parce qu'on a besoin qu'ils viennent jeudi, et qu'ils puissent repartir, ou bien il y a besoin qu'on est souple avec eux, on veut pas les faciliter, on veut pas leur rendre plus difficile de revenir spécialement. Après, il y a qui tiennent dans les notes, on voit dans la Sikha qu'en fait, c'était le Tzorer Purim. Il y a plein de sujets qui sont liés à ça, mais tout le monde comprend que c'est plus profond que ça. C'est pas juste que pour faciliter à quelques personnes, on va leur faire la Megillah. Alors, la Gemara a dit, il y a une base dedans, parce qu'on voit quand même que dans la Megillah, c'est marqué Ayamim. Ça veut dire que les Khatrila, dès qu'on a instauré, déjà à l'époque, on avait instauré ça. Que la lecture officielle, c'est le 14, mais que on pourrait lire quelques jours avant pour certaines personnes. Ça aussi, il faut comprendre. Pourquoi c'est comme ça? Ça veut dire qu'il y a ici, en fait, trois catégories dans la lecture de la Megillah. La première catégorie, c'est ceux qui sont dans les villages. Et eux, ils ont des dates. C'est quoi leur date? Elle commence le 11. Ça veut dire qu'on va trouver un lien à la fin de la Sira entre le village et le 11. On va trouver un lien entre un habitant du village et la date du 11. Qu'est-ce que c'est un village? On va voir dans la Sikha. Et qu'est-ce que c'est l'11? On verra aussi dans la Sikha. Donc on va comprendre que c'est beaucoup plus profond juste de dire qu'on a essayé de faire un arrangement pour leur rendre les choses plus faciles. La deuxième chose, c'est qu'on comprend qu'il y a une deuxième catégorie. C'est ceux qui habitent dans la grande ville. Ça, ils lisent le 14. Et après, on comprend qu'il y a ceux qui habitent dans une ville entourée de murailles. Et ceux qui habitent dans une ville entourée de murailles, ça, eux, ils vont lire le 15. Ça veut dire qu'en tout, il y a combien de catégories de personnes à qui on lit la Megillah? Trois. Ceux qui lisent depuis le 11, village. Il y a quoi dans un village, comme on verra à la fin de la Sikha? C'est là-bas où il faut travailler la terre, c'est difficile, etc. Il y a ceux qui habitent dans la ville. Là-bas, déjà, les choses sont plus ou moins structurées. Et après, il y a ceux qui habitent dans une ville entourée d'une muraille. Eux, ils ont une protection particulière. Et eux, ils vont lire le 15. Alors, c'est quoi ces trois populations? Pourquoi il y a ces trois catégories? Et bien sûr qu'on va comprendre qu'il y a un lien avec tout ça, avec l'onze, puisque c'est là où ça commence la lecture de la Megillah. On va parler d'Amalek, et comme on l'a dit au début, on va faire le lien dans cette sikha, on va voir le lien entre la paracha Tetzavé, entre la mission de combattre Amalek, et entre le fait que surtout cette année, ça tombe le 11. Voilà le coup de la sikha. Comme d'habitude, avec le temps qu'on a, certaines choses on va faire sur texte et d'autres à l'oral. Et pendant Shabbat, vous aurez le temps de revoir toute la sikha sur texte. Ot Aleph. Kol Shabbat. Chaque Shabbat, Yesha Echout, il y a un lien. Vime Shavuaba, la semaine qui va venir. Marqué dans le Zohar, Kosh Ita Yomin, tous les six jours, Mitbach, ils sont bénis. Mais Yomash Via, du Shabbat passé. Ça veut dire que Mina Shabbat, Mitbachim, Shesh Ita Yomim, Shesh Shavuaba. Le Shabbat qu'on va vivre maintenant, il va bénir la semaine à venir. Mais Shabbat Anochit, ça c'est chaque Shabbat de l'année. Mais ce Shabbat, il y a quelque chose de très particulier. Bolet et Yoter, ça ressort encore plus à Shaychut, son lien avec mes Shavuot Haba, avec les jours de la semaine qui viennent. Que Mitbate, comme on le trouve, Bechovat Hakriya Batorah, dans les obligations de la lecture de la Torah, Shabbat, ou ce Shabbat, on a instauré de lire Parshat Zachor. Et on dit pourquoi? Parce que c'est le Shabbat qui précède Purim. Et alors, Zechirat Maaseh Amalek, ce souvenir d'Amalek, Kshura, est lié avec Purim. Atcha Kriya She Purim Atmo, la lecture de Purim lui-même, c'est la Parshat d'Amalek. Kriat Parshat Zachor, dans la lecture de Parshat Zachor, qui est avant Purim, la Gemara est dit, Yazchira Baal Ifnasia. Il y a un verset qui dit, Niskarim, d'abord tu vas le mentionner, et après tu vas le faire. Alors la Gemara explique, pourquoi on a instauré la lecture de Parshat Zachor avant Purim. Le jour de Purim, c'est là où Mamash, tu effaces, et le Shabbat d'avant, tu mentionnes l'idée que Amalek existe dans chaque génération, dans chacun, etc., et qu'il faut effacer. Et ensuite, tu effaces. Il y a un vrai lien entre ce Shabbat qui vient et pour nous. Beshanazou, cette année, Ashaykh, il y a un lien entre ce Shabbat avec Purim. Beyater 7, elle est beaucoup plus forte. Mais Asher Parshat Zachor, Shachar Hashanim. D'un Parshat Zachor des autres années. Hashana, cette année, Chal Shabbat Zou, ce Shabbat, il tombe le 11 Adar. Miyom Zé, de ce jour-là, Matril Azman, commence le Zman, Haraou Ikiab, l'Ikriat HaMegillah. Kenem Abba Mishnah, comme c'est marqué dans la Mishnah, Megillah Nikret, la Megillah, elle peut être lue le 11, le 12, le 13, et le 14 et le 15. Hakfarim Magdimim, le Yom HaKnissa, ceux qui habitent dans un village, ils peuvent venir et lire avant Yom HaKnissa, le jour où ils rentrent dans la ville. Tous les lundis, jeudi, ils venaient pour livrer la nourriture pour les habitants de la ville. Et vu qu'ils venaient pour livrer les habitants de la ville, alors c'était le jour où ils lisaient la Megillah. Haouvda, le fait, chez Yuda, le Fada, que l'on zada, hino, il est Yom Raoui, un jour apte pour lire la Megillah. Il aura Shashanim Ketikunam Israël Shurinalan Matam. C'était pas que au temps du deuxième Betamigdash, puisque Purim, c'est avant le deuxième Betamigdash. C'est pas que pendant les 420 ans où on habitait en Israël et il y avait le deuxième Betamigdash, mais c'est Gam Bismanazé, mais c'était aussi à la période de la Gemara. Comme on voit ça dans la note 14. Et puisque ça, on retrouve clairement dans Shulchan Aruch que même dès qu'il n'y a pas cette histoire de village, d'accord? Il n'y a pas l'histoire de village, il n'y a plus cette histoire que quand il est dans le village, il vient que lundi, jeudi, mais cette halakha est retenue. Qu'est-ce qu'il dit dans Shulchan Aruch? On est dans la page 5, en haut de la page. Hamefaresh Bayav, celui qui prend la route, il va aller dans un bateau, il est obligé de partir. Ayotse Bashayara, celui qui va voyager dans le désert avec tout un groupe de personnes, il peut pas attendre. Et dans Motse Megillah, le lire, il n'aura pas un Megillah à prendre avec lui. Yikrena, il va la lire le 13 ou le 12 ou le 11, Belo Bracha. Ça veut dire que cette idée que le 11 commence la lecture de la Megillah, c'est pas juste une pratique au temps du deuxième Beit Hamikdash. C'est pas juste une pratique au temps de la Gemara. C'est resté aujourd'hui. Sans bracha, mais c'est resté aujourd'hui. Après, il ajoute, on va le faire oralement, bien que Bidiavad, c'est marqué que tout le mois on peut lire comme le Rama et le ramène, mais il dit que quand même ça reste un Bidiavad. Alors, même si le 11 et le 12 et le 13 aussi c'est un Bidiavad, mais dans Bidiavad il y a des niveaux. Donc, le Shulchan Aruch, le Beit Yosef s'est fait la tranchée, qu'à partir du 11, quelqu'un qui part en voyage, il pourra pas, il lit. Rama, il a ajouté que ça existe aussi à partir du 1er. Il y a des différences, comme il dit dans les notes. Donc, on voit que chaque Shabbat, il a un lien avec les jours de la semaine. Ce Shabbat, on va lire Parshat Zachor, c'est lié avec Purim. Mais surtout cette année, où ce Shabbat, il est le 11, c'est qu'on commence déjà, il y a quelque chose de Purim qui est en train de commencer. La question, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un lien avec la Parshat Etzavé? C'est la Sicha. Adava Yuvan, le Hot Bet et le Hot Gimel et le Hot Dalet, on va juste dire quelques mots. On va dire un mot et on va le faire sur texte. Il pose une question. Pourquoi dans la Mishnah c'est marqué Megillah Nikret ou Nikrat? La Megillah élue. On aurait dû dire, Corinne est un Megillah, on lit la Megillah. Comme dans chaque chose, on parle à la personne. L'homme peut lire, l'homme peut faire, chaque chose que tu vois. Mais Mata, Corinne, Etchma. On lit, un homme il lit, un homme il fait. Chaque chose, on dit un homme il fait. Là, on parle pas de l'homme. Là, on parle du sujet. La Megillah, elle est lue. C'est la chose étonnante. Après, une deuxième question. Les dates. 11, 12, 13, 14, 15. Il y a des catégories dedans. Les vraies dates, c'est quoi? C'est le 14 et le 15. Comme ça, c'est marqué dans la Megillah, en fait, pour Rim 14 et 15. Le 11 et 12 et 13 ont été ajoutés. L'Agmara l'explique, on a expliqué, etc. Mais ça vient après, ça. Alors, dès qu'on écrit une Mishnah, comment il faut l'écrire? Il faut d'abord écrire que on lit le 14 et le 15. Après, il y a des gens dans les villages que pour arranger un peu les choses, on a été un peu souple. Et qu'est-ce qu'on a fait? On laisse un peu, on peut même appeler ça un khatrila bediavad, mais on laisse qu'ils peuvent lire le 11, le 12, le 13. Voilà la manière comment c'est annoncé. Quelqu'un qui dit la Mishnah comme si le khatrila, il y a 5 jours. Le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Or, dans l'ordre des choses, on lui d'abord parler du 14 et 15, après du 11. Ensuite, c'est étonnant le lachon Megillah Nikret. C'est le sujet, ouais. C'est lu. On aurait dû dire, un homme peut lire. Oui. Alors, il explique, il dit que dès que tu dis qu'il y a une date, il y a une date, il faut faire ça le 14. Après, tu dis, si quelqu'un peut pas, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il peut lire le 11. Très bien. Alors, c'est lui qui peut lire le 11? Ou bien est-ce que c'est vraiment bien fait? C'est mal fait ou c'est bien fait? On va dire comme ça. Si je dis, bon, pas de solution, alors lui, il lit. Mais si j'annonce le Khatrila, la Megillah, elle est lue, le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15, je mets en valeur au même niveau, le 11 et le 14 et le 15, ils sont tous au même niveau. Au niveau de la Megillah, au niveau du texte, au niveau de ce qu'il y a à faire avec la Megillah de lire, en quelque sorte, il n'y a pas de différence entre le 11 et le 14 et le 15. Bien que dans la Megillah, on voit oui une différence. On a mis en avant le 14 et le 15, et le 11 et le 12 et le 13, on en a fait une dracha. Ça n'empêche pas. La Mishnah, la manière comment elle veut te l'annoncer, elle veut te dire vraiment, c'est pas juste. Il y a une date, mais si tu veux, on va arranger les choses pour toi. Non. C'est devenu que la vraie date pour lire la Megillah, ce sont tous ces 5 jours-là. Même s'il fait sans bracha.
Ça montre un...
Alors aujourd'hui, il fait sans bracha. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, il faisait sans bracha. Bnei Akfarim, il faisait avec bracha. Aujourd'hui, où il n'y a plus Bnei Akfarim, on a gardé ça qu'aujourd'hui, on fait sans bracha. Donc en fait, il dit que le fait qu'on a annoncé Megillah Nikat, c'était une façon de dire, c'est vraiment en quelque sorte le Khatrila. La question est pourquoi. Un peu comme on a dit au début. Pourquoi on leur a facilité? Pourquoi on le met tellement en avant? Pourquoi dans la Mishnah, c'est annoncé comme première chose, on commence par le 11? Chacun y comprend. Comme on a dit au début, on verra ça à la fin. Il y a vraiment ici trois sortes de personnes, trois sortes de niveaux, et la Megillah, elle doit être lue à tous les trois niveaux. Ça, c'est ce qu'il dit dans l'autre bête, Gimel Dalet, on va lire quelques passages en texte. Dans l'autre bête, Hadava Yuvan Beg de Mabio be Mishnah, Megillah, Nikrat, Buyudalef, Buyudbet, Buyudgimel, Buyudal, Betetvav. Mais qui, Ivan, puisque chez Kriata Megillah, la lecture de la Megillah, le 11, 12, 13, Irak Kula, et c'est Takana, un arrangement de Rabbanan, Bismani, Mesuyamim, dans quelques situations, Anashim, Mesuyamim, à des personnes précises, Madoua, Matrila, Mishnah, pourquoi la Mishnah commence en annonçant le 11? Pourquoi elle commence pas en disant clairement le 14 et le 15? Ça, c'est la question. Tourne la page. Le dernier passage du Hot Bet. Mokendo Rejbio, il y a une deuxième question. Que fiche Shoalim à Mefarshim, comme les Mefarshim y posent. Madoua, pourquoi Naktaka na Mishnah le Lachon Migila Nikrat? Elle aurait dû dire un lachon, comme on dit toujours, Corinne est un Megillah, voilà les deux questions. Ça, c'est les questions du Hot Bet. Le Hot Gimel, Yeshlom Ma'ez Bobazé, Seder Zeshel Dvarim, en annonçant d'une manière très forte, en commençant le 11 et le 12 et le 13, pas comme une solution pour certains, mais on l'annonce comme quelque chose d'officiel. Bah, Mishnah l'adgish. La Mishnah vient nous apprendre. Ah, Shatam le kach, même s'il a raison. Qu'on a autorisé de lire la Megillah, Yudalef, Yudbet, Yudgimel. Mais Kivan Shechachamim et Kilou, les Chachamim, ils ont allégé à la Kfarim sur les habitants des villages, que eux peuvent exceptionnellement venir plus tôt. Eh bien, il faut savoir, c'est pas comme on dit un second plan ou une deuxième solution qui est faite pour eux. C'est vraiment devenu le statut de la lecture de la Megillah. Colonne de gauche. Dernier passage de colonne de gauche. Kriata Megillah Bismani Meilou. C'est devenu que lire la Megillah le 11. Inarak Shebne Akfarim Mekami Mitzvah Mutelet Alem. C'est pas juste. La vraie halakha, c'est le 14. Mais vu que toi, tu viens d'un village, on t'a permis à toi, un peu diavad un petit peu. Non. C'est devenu Megillah Nikrat. C'est ça, le statut de la lecture de la Megillah. Kiyum kriata Megillah, comme il dit, kedebay. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient d'un village, et il vient le 11, le jeudi, on lui fait une lecture, et il lit la Megillah, et il n'a rien à se sentir inférieur. Pour lui, c'est l'alakha. Comme tu vas dire quelqu'un qui habite aujourd'hui en Israël, dans une ville, on fait le 14, il fait le 14. Celui qui habite dans une ville entourée du muraille au Shalaim, il fait le 15. Tu vas pas dire à celui qui est au 14, c'est inférieur à celui qui fait le 15. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec le 11, et c'est pour ça qu'on a écrit Megillah Nikrat. Page 7. Le deuxième passage, qui commence par le mot Vezeo Pirouche. Vezeo Pirouche à la Shon, Megillah Nikrat. Velo Corinne et à Megillah. Au Matrine, on commence le 11, 12, 13. C'est pour nous apprendre, Kriata Megillah bien mimeilu, il est gabé à Megillah, Zeus Mankrata. C'est ça la vraie règle de la lecture de la Megillah. Elle est lue pendant 5 jours. Par les habitants du village du 11 au 13, par les habitants de la ville, le 14, et par les habitants de capitale, entourés de murailles, le 15. Et comme il dit en haut, c'est déjà instauré comme ça depuis le début. Modra et Est, dès qu'ils ont instauré, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Hot Dalet, page 8. Dans ce Odalet, il explique quelle serait la différence entre la halakha qui dit de lire de 11 au 13 en cas de force majeure et celui qui lit depuis Rosh Chodesh aussi de cas de force majeure. Il dit, celui qui lit depuis Rosh Chodesh, c'est un second plan, c'est un bidiavad, c'est bidiavad. Et alors, s'il a une autre mitzvah qui se présente, l'autre mitzvah passe avant. Par contre, celui qui se trouve dans la situation, il part en voyage le 12, et lui doit lire le 11, sans bracha, pour lui, lire le 11, c'est un peu le zman. C'est une vraie mitzvah qui se pose sur lui. Voilà, comme ça, elle explique la différence. En tout cas, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? C'est que c'est pas juste des solutions qui ont été apportées pour des gens qui sont dans des villages. C'est comme ça que ça a été instauré. Tu habites dans un village, c'est du 11 au 13. Tu habites dans la ville, c'est le 14. Tu habites dans la ville entourée de murailles, c'est le 15. C'est pour ça que c'est comme ça que c'est rédigé dans la Mishnah. Et on l'annonce, Megillah, Nikrat, elle est lue vraiment à partir du 11. On rentre dans ce Shabbat le 11, on rentre dans la date que ça, c'est pourri. C'est-à-dire, c'est déjà la lecture de la Megillah, elle est lue à partir du 11. On va passer au Hot Vav. Hot He. Page 8. Madoua, Chen Matsinu, la question maintenant se pose, pourquoi on trouve Inyan Kazeb et Megillah? Shegam Yamim Elo Shebetsem Einam Zman Kriya. On a pris des jours qui apparemment ne sont pas des dates de lecture dans la Megillah. Et Bechozot, ils ont été transformés par les Chachamim, et ils sont, oui, devenus des dates de lecture. D'autres mots, si vraiment on peut lire le 11 vraiment, pourquoi ça figure pas dans la Megillah? Dans la Megillah, dès que tu lis, c'est marqué que Purim est fêté 14 et 15. C'est allusionné le 11, 12, 13. Pourquoi ça n'a pas été, pourquoi ça, c'est pas assez solide? Pourquoi ça a l'air d'être faible? Alors il dit, Yeshama Atam Bazé. Kol inyan Megillah, tout le sujet de la Megillah Bichlal, puisque ça il va dire, la fête de Purim, elle est constituée comme ça. Elle n'est pas annoncée avec force depuis le départ. Elle vient avec un effort. Elle vient avec une difficulté. Il y a quelque chose qui se passe dans la fête de Purim. Que ça soit dans la fête, que ça soit dans l'écriture de la Megillah, la lecture de la Megillah, tous les détails, on voit que c'est comme si on est en train de se battre avec quelque chose qu'on doit transformer, qu'on doit arranger, qu'on doit élever. Ça vient avec difficulté. Dit comme ça. Tu vois ta Megillah, l'écriture de ce sefer de la Megillah, on est le deuxième passage de Hot Hey. L'Oaïda Bedoma Lektivat Shah Sifra Torah Shibirtav, c'est pas comme les autres 23 livres, il y a 24 livres en tout, c'est pas comme les autres 23 livres. Les autres 23 livres, ils ont été écrits par des prophètes, normalement. Megillah n'était pas écrit. C'est marqué. Ktivat Megillah Bade Bakashat Esther, l'Agma Megillah raconte une histoire à Esther. Elle a fait une demande au Sanhedrin. Elle leur a dit, quitte vous ni le Dorot, je vous demande d'écrire mon histoire pour les générations à venir. L'Agma a dit, c'est le Chachamim, c'était toute une discussion. Oui, non. Et à la fin, ça porte son nom. Parce que c'est elle qui a demandé. Il y a une autre sikha que le Rabbi explique, ça s'appelle Megillat Esther. Megillat, ça veut dire révéler Esther une histoire cachée. Mais sinon, pshat, c'est ça. Elle, elle a demandé, donc ça porte son nom. Elle a dit, quitte-vous, n'y écrivez mon histoire. Prédit dans la parenthèse. Même le fait qu'on a fixé la fête de Purim et d'obliger de lire la Megillah, c'est aussi venu suite à la demande d'Esther. Ça veut dire qu'elle a fait une demande, apparemment, et pour écrire la Megillah. Elle avait une demande que ça devienne une fête dans le calendrier. Elle avait une demande qu'on dise à chaque juif de lire la Megillah. Et ça aussi, on raconte qu'il y avait toute une chaklavetaya entre les chachamim de l'époque, oui ou non. Ok. Donc c'est catégorie faible. Ça n'a pas été quelque chose avec l'ordre de Dieu, ça n'a pas été quelque chose avec des prophètes qui ont écrit. C'est vraiment tout un effort qu'elle a demandé. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on dit sur les 24 livres du Tanakh, lequel est le plus important? Il y a une importance de la Megillah que les autres n'ont pas. Nam la chaktivat Megillat Esther, après qu'on a écrit Megillat Esther. D'abord, en premier, Avraham Megillah est devenu pas simplement un écrit, mais elle est devenue un des 24 livres. Vadraba. Od be'ilui ve'yitaron avec un plus. Que dit Rambam? Kol sifra nevim kol aktuvim atinin libatel. Ils vont tous être annulés. Annuler, le Rav l'explique dans Yisra, ça veut dire, on va pas ressentir leur gdusha et leur importance face à ce qui va se passer lorsque Mashiach viendra. Par contre, Megillat Esther, on va ressentir la grandeur de Megillat Esther, même dès que Mashiach viendra, comme les cinq Chumashim. Il y a ici quelque chose qu'on va voir ici dans la Sikha. C'est d'un côté, c'est bas, et d'un côté, on obtient quelque chose qui est très haut. C'est exactement ce qu'on va voir avec ces dates de lecture de Megillah. À la fois le 11 et le 12 et le 13, ils sont apparemment à nos yeux inférieurs, parce que le Icar, c'est 14 et 15. Et Dafka, tout pourim, c'est ça. C'est de prendre quelque chose qui est inférieur et de le mettre au-dessus. Donc une Megillah qui ne devait pas être écrite, elle finit par être écrite, elle est au-dessus. Pourim qui est une fête qui est, ne devait pas exister, non seulement elle existe, mais elle dit que dès que Moshiach viendra, elle sera fêtée plus que les autres. La Megillah, une fois qu'elle est écrite, elle est plus haute que les autres. Alors ça sera la même chose dans les dates. Bien que la date officielle, c'est 14 et 15, le 11 et le 12 et le 13 prennent une valeur énorme, comme on verra à la fin de la Sira. Voilà. C'est cette Nukudala qui est la Sira. Des choses qui sont basses, qui sont inférieures, et qu'en vérité, ils sont plus hauts. On va retrouver ça dans le 11, par rapport au 15. On va retrouver ça au niveau des gens qui habitent dans le village par rapport à ceux qui habitent dans la ville. On a retrouvé ça dans la Megillah par rapport aux autres 23 livres. On retrouve ça dans Purim par rapport aux autres fêtes. On va retrouver ça aussi dans la Parashat Tetzavé, dans lequel il n'y a pas le nom de Moshe. Mais en vérité, c'est plus haut. C'est cette Nekudala qu'on va retrouver dans tous ces Yanim-là. Que Tetzavé c'est le plus grand, que Purim c'est le plus grand, que la Megillah c'est plus grand, que ceux qui habitent dans le village c'est encore plus grand. On y va. Odvav. Amor itbate anyanamo mitbate gambofan boya kitvuni shem Megillat Esther. On retrouve ça dans la manière aussi comment ça a été écrit. Shelo kayemba kitvuni shem Hashem, il n'y a pas le nom de Dieu. Encore un point. Il n'y a pas le nom de Dieu. Le Shon est différent des autres 23 livres. Alors, peu pas tout. Moré, ça montre à Davara, Dagak, Dusha, Shem, Botak, Dusha, Shem, Avay. Apparemment, c'est un niveau de Gdusha qui est inférieur puisqu'il n'y a pas le nom de Dieu. Et dans la parenthèse, il ramène qu'une des raisons qui sont marquées, c'est parce qu'on n'a pas voulu qu'un jour ça sera traduit. Ils vont peut-être traduire ça avec Davodazra. Mais, biyachadimze, passage d'après. Le dernier passage de la page 9. Biyachadimze, areyadoua, mais c'est connu. Ma, shebem gila, lol, niskari, ma, shemodak, doshim. La raison pour laquelle il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillah. Remez le car, c'est une allusion. Sheinyana, kasho. Que c'est attaché, ben, le coup d'un niveau de Dieu très très haut. Tellement haut, qu'il ne se traduit pas dans un nom. Comme on apprend dans Chassidut, l'histoire. Cher Rabbeinu, il a dit à Dieu, avant de sortir d'Égypte, il a dit, ils vont me demander comment, c'est quoi le nom de Dieu? Alors il lui dit, selon ce que je fais, c'est comme ça qu'on m'appelle. Dès que je fais une action de Chesed, alors il y a un nom de Chesed. Mais sinon, Dieu lui-même n'a pas de nom. La même chose, on dit que dans le nom de Dieu, Yud Kevavke, il y a une petite pointe au-dessus du Yud. C'est le Kutz, le Kutz Shel Yud. Il y a un niveau qui est au-dessus du nom. Alors la raison pour laquelle il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillah, à nos yeux, elle est moins importante, la Megillah. Et en vérité, on découvre que dans la Megillah, il y a Atzmut. Dans la Megillah, il y a Dieu lui-même qui est au-dessus de tous les niveaux, de tous les noms de Dieu. C'est ça qu'il y a dans la Megillah. C'est un peu comme, c'était pas prévu d'écrire, une fois que c'est écrit, c'est plus haut que tout. Kachou be loko de loit fas b'shem, ça ne s'attrape pas avec un nom. Bedaga niveau shi af na lit yoter mishemot hakdoshim. C'est plus haut que tous les noms sacrés qu'il y a. Yoter mikach, daga niveau, comme dit en araméen, de loit ramis, qui n'est pas allusionné, b'shum ot, dans aucune lettre, même pas un kotz. Kotz, c'est une petite pointe qui a sur une lettre. Anochi mishanochi. C'est ça que la Gemara a dit, Esther min la Torah minayin. La Gemara a dit, où est-ce qu'on trouve une allusion de Esther dans la Torah? On a trouvé le mot Esther. Anochi Esther astir. Ça a l'air d'être comme si la Gemara cherche des mots. On comprend qu'il y a un message caché derrière. Où on trouve Esther? Le secret de Esther. Dans la Torah, c'est dans le pasuk Anochi. Dieu lui-même. Esther astir. Esther astir. Sheber Megillah. Ce voile qu'il y a dans la Megillah, cette histoire qui passe dans le chemin de la nature qu'il y a dans la Megillah, ça raconte Anochi. Atzmut, qui vient pas dans un nom. Donc en fait, la Megillah apparemment était à un niveau inférieur. Elle se retrouve à être au-dessus de tout. La fête de Purim, comme on dit dans d'autres sirot, a l'air d'être inférieure. Le Rebbe dit d'Afka, Dieu dans la nature, c'est au-dessus de tout. Donc c'est pour ça que le fait qu'il n'y a pas le nom de Dieu, c'est au-dessus de tout. Basé là-dessus maintenant, on va comprendre qu'est-ce que c'est le 11 et le 12 et le 13. Dans le Hod, Zayin va expliquer c'est quoi les trois populations. Quoi ça signifie? Le village, la ville et la ville entourée de murailles. À partir de là, il va expliquer un peu dans les sirotes de quel monde il s'agit. Bria, Yetzira, Asiya. Et à partir de là, on va comprendre, il y a Pashut, trois niveaux de lecture de Megillah. À la fin de la Sira, on va voir lequel des trois est plus haut. Dans les mots. Puis c'est Yumtak, Madoua, Mishnah, Potachat, Beyudalev. Maintenant, c'est Yumtak. Yumtak, ça veut dire c'est plus doux. Pourquoi on a commencé par le Yudalev? Après la parenthèse. Lorsqu'on dit que ça c'est le jour pour les gens qui sont dans le village, c'est pas juste on a trouvé un allègement pour eux, mais c'est leur date. C'est lié à eux, comme on verra plus tard. Alors, il faut d'abord comprendre c'est quoi ces trois sortes d'habitants. Et pourquoi dans une fête pareille on a comme ça trois catégories. Et depuis quand on voit des différences si je suis dans un village ou dans une ville, ou dans une ville entourée de murailles. Mais qui t'aura à Kolpanim? C'est intéressant cette description, mais qui t'aura à Kolpanim? On va dire un mot dessus avant de continuer. On tâche une bête dans les Rishimot, 1942. Il y a une Rishima du Rebbe Soporim. Et dans la Rishima du Rebbe Soporim, il reprend toute cette Mishnah. Et il explique, Megillah, Nikrat, le 11, le 12, le 13, 14, 15, il explique tout, Api Chassidut, Api Kabbalah. Et l'année d'après, il y a dans les Grottes Kodesh une lettre, dans laquelle il y avait des Chassidim qui étaient à Montréal. Le Rebbe leur a écrit une lettre, il a dit qu'il, je pense qu'il y avait un mariage, il n'a pas voyagé. Le Rebbe dit qu'en contrepartie, il leur envoie un sujet, il dit, pour faire Farbring ces jours-ci. Le Rebbe reprend, il dit clairement ce qu'il a dit. Et que le Rebbe lui-même, elle avait fait Farbrayin, il a reparlé de ça. Et cette Nukudala qu'on apprend dans cette Sira, on la retrouve presque dans une dizaine d'endroits. On la retrouve dans la Rishima, on la retrouve dans cette fameuse lettre, 1943. On la retrouve dans plusieurs mamarim. Il y a un mamar dans Tafshin Lamed Zayin où il prend toutes ces questions. Et il donne encore beaucoup d'autres choses qui ne sont pas ici dans la Sira. Tafshin Memchet. Lorsque la première fois pour lui que le rabbi n'a pas fait Farbring, le rabbi était à la maison. Et il a fait de la maison, comme ici, à Mama. Megillah Nikrat, Budal, Fubet, Ugimel, il a encore expliqué beaucoup d'ignanim. Api Kabbalah, Api Chassidou, c'est ignanim là, du village et de la ville et de la ville entourée du muraille. Ça signifie tout l'ignanim de Bria et Tirassia avec les Malachim, les Sraphim, etc. Dans chaque mama, il y a d'autres choses que le rabbi explique. C'est ça qu'ici, il dit, mais qui sera le kolpanim? Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à ce sujet. Donc, les grandes lignes sont là. Il dit comme ça. Ra, hamukaf, choma. Une ville entourée de murailles. On est dans la page 10, colonne de gauche. Avodato muganet. Signifie quelqu'un que son travail est bien protégé. Il est dans une ville entourée de murailles. Entourée de murailles, ça veut dire qu'il y a une véritable protection. Veinamav sheret, elle ne laisse pas l'entrée d'un ennemi. Bien protégé. Le 15, on lit dans la ville entourée de murailles. Entourée de murailles, c'est que ça signifie que la personne est bien entourée, il n'a aucun risque d'un ennemi, aucun risque d'une force négative qui le touche. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Ir Moshav, celui qui habite dans une ville normale. Avodato, c'est Boné, Machon, le Shifto, Ibach, il fait une demeure pour Dieu. Benir, mais il n'a pas besoin d'aller labourer dans une terre vide. Il n'a pas besoin d'aller l'isroir, semer. Il n'a pas besoin d'attendre jusqu'à ce que le champ va faire pousser du blé. Il doit prendre des choses qui sont dans la vie, dans les magasins, et vivre, étudier, prier, travailler, mais il n'a pas à faire avec un niveau qui est bas. Kfar, celui qui habite dans le village, avec quoi il est en contact au quotidien? Avec la difficulté. Parce qu'il est dans un champ. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il doit travailler, il doit labourer, il doit se fatiguer, il doit attendre des mois et des mois jusqu'à ce que ça pousse. Donc il a affaire avec Helem Aolam. Donc en fait, c'est comme ça, c'est trois sortes de populations. La première, elle est complètement tranquille, elle est protégée des forces extérieures. La deuxième, elle n'est pas protégée, mais elle a un travail qui a affaire avec des choses normales sans descendre trop bas. Et la troisième catégorie, c'est celui qui est tout en bas. Tout en bas, il est dans le village. Et dans le village, il a besoin là-bas d'avoir affaire avec Helem Vest, des choses qui sont un voile. Des choses qui sont tout en bas. Ça, ce sont trois sortes de personnes. Il va expliquer plus tard dans la Sira, hein, c'est qui les trois sortes de personnes. C'est la tête, c'est le cœur, c'est les pieds. La tête, c'est celui qui a atteint un niveau parfait. Donc il est protégé. Il a les idées claires. C'est ça le muraille. Le cœur, au moins les midotes, déjà quelque chose. Et le niveau le plus bas, c'est Kabbalatol. Son cœur n'est pas parfait. Sa tête n'est pas parfaite. Alors comment lui, il avance? Avec soumission. C'est ça ce qu'on va retrouver à la fin de la Sira. Trois sortes de populations. Bechlalut haolamot ou belashon hachassidou dans l'autre het. Il dit que c'est marqué dans les mamarim. Et c'est ce qu'il explique. En fait, c'est lié aux trois mondes Bria et Sirassia. Krach, entouré du muraille, Meramez Olam Abria, là-bas c'est le travail des Malachim qui s'appelle Sraphim, ils ressentent les choses très très fort, ils sont toujours en train de monter, ils brûlent pour s'attacher à Dieu. Ir Gdola, c'est Yetzira, c'est le travail de Chayot HaKodesh, et Kfar, le village, Asiya, c'est le travail d'Ofanim. Il y a d'autres Tichot que Rabbi explique, avec ce qu'ils disent, Kadosh Kadosh, Baruch Kvod, avec Ishayahu, Yecheskel, etc., etc. Quoi la différence entre les trois niveaux, Bokochot Vavodat Adamu? Comme on a dit, le premier, le plus haut, c'est qui? C'est la tête. Avoda, Benkrach, Mokorab, Mochin, il atteint un niveau, et tout son service de Dieu, c'est intellectuellement, il est déjà un très haut niveau. Pour ça que lui, il a un plaisir dans le service de Dieu. Et puisqu'il est complètement baigné dedans, il est protégé, entouré de murailles. Il n'y a plus rien qui le touche. Les anges, ils s'appellent Sraphim parce qu'ils brûlent, ils s'attachent à Dieu. Deuxième niveau, on est dans la page 11. Page 11. Le deuxième passage. Havoda Yarod Gdolot, ceux qui sont dans les grandes villes, c'est qui? C'est le cœur. C'est les Midot. Avat Hashem, Yirat Hashem. Ça c'est Olama Yitzira. Dans les Malachim, on dit qu'eux, dès qu'ils appellent, ils crient Berash Gadol. Ceux qui ont remarqué dans la Tfila. Il y a Kadosh, Kadosh, et Baruch Kvod, deux niveaux de Malachim. Troisième catégorie, c'est qui? C'est Bnei Kfarim. Travail dur, la terre, labourer, se fatiguer, compliqué. C'est qui? Ça, c'est le juif, troisième catégorie. Olam Asiya, Prinatoda, c'est que la soumission. Par contre, chez lui, Hasaga, comprendre avec le Sechel, ou bien le cœur, ça, c'est que Bemidakazu, Hamevia, Hoda. En d'autres mots, il ne ressent pas beaucoup les choses. C'est comme celui qui est dans le village. Il est loin, il est simple. C'est surtout Kabbalatol, la soumission. Alors, il a quoi, lui? Passage d'après. Ashavodat bnak farim bolamassia ein murgash elokut bit galut. Il ressent pas les choses. Comme il dit dans la parenthèse. Ni dans la tête. Et ni dans le cœur. Avodatam et lavutam, dès qu'il est enflammé, ça se traduit que dans du kabbalatol. Hoda'a, reconnaissance. Asiya, l'action, les mains, les pieds. Afabiken, il a un grand bitoul. Et comme il dit, mais son bitoul à lui, il est mieux que les autres. Pourquoi? Parce que l'autre, ça va dans son sens.
Entre plaisir et émotion?
Oui, ça va dans son sens. Il sert, il est soumis à Dieu, mais il se brise pas beaucoup. Lui, par contre, il ressent pas les choses, il comprend pas les choses. Donc lui, vraiment, il atteint un degré de bitoul très haut. Adraba, habitoul shimitsa prinatoda bilvat. Le prat mesuyam à un certain degré, amok yoter, c'est plus profond que le bitoul de celui qui s'est prié et s'est étudié. Et c'est pour ça qu'on dit, qu'il dit là-bas, quoi d'achamim komo, etc. Alors, il dit le dernier passage, maintenant on comprend le secret de cette Mishnah. Lorsqu'on nous annonce la Mishnah, elle est lue à partir du 11. C'est le villageois, il est secondaire. À un certain niveau, il est secondaire. Mais chez lui, il y a bitoul. Et si chez lui, il y a bitoul, c'est une annulation d'un très haut niveau. Si c'est une annulation d'un très haut niveau, c'est supérieur. Ça va dans le sens de la Megillah, ça va dans le sens de tout ce qu'on a appris. Lui, il est en bas, et lui, il est soumis. Lui, il est en bas, et lui, il se soumet, il fait la volonté de Dieu, même s'il comprend pas, même s'il ressent pas. À qui est-ce qui fait le vrai travail de Megillat Esther? Qui fait le vrai travail de révéler dans le monde des choses qui sont cachées? Qui fait le vrai travail de se battre avec les choses qui sont voilées et d'aller révéler là-bas la main de Dieu? C'est lui. Lui plus que les autres. Chez lui, il y a plus le chidouche. La reine potach da Mishnah bekriya shel Yudalef, kriyat bnei kfarim, bekriya zo, c'est dans cette lecture-là, merumas, qu'on retrouve vraiment le message de la Megillah. Mais bliabet hachebechitsuniyut onia shel Esther, sans regarder que visiblement elle est dans un village. Ça veut dire que son cœur ne ressent rien. Sa tête, il comprend pas. Mais il est soumis à bitoul. Ben, c'est lui qui représente le vrai Esther. C'est lui qui représente le vrai Helm Vest, le vrai voile. Yesh basé à etchem shelmal amagiluim. Et là, on touche quoi? Le niveau de Dieu qui est au-delà des noms. Là-bas, on touche la fête de Purim, qui sera la seule, qui sera vraiment visible lorsque Mashiach viendra. Là-bas, on ressent quoi? La lecture de la Megillah qui est plus haute que tous les livres. Parce que là-bas, c'est le vrai voile, et là-bas, on fait un travail de Megillah de révéler, comme l'avait dit dans les autres Sichot. Et à ce moment-là, on voit le vrai, c'est le villageois. Le vrai quoi? À cette fête de Purim, que le message de Purim, c'est toucher le Etchem d'un juif. Le Etchem d'un juif qui ressort le plus, c'est celui qui est dans le village. Que malheureusement, au niveau intellectuel, il ne connaît pas. Au niveau des sentiments, c'est moyen. Et lui, c'est juste l'action et le bitoul. C'est lui vraiment le Megillah Nikrat. C'est tout à fait normal dès qu'on connaît le secret. Mais qu'est-ce que c'est pour lui? Qu'avec quelle date il faut commencer? Faut pas commencer par le 14 et le 15. Faut commencer par le 11. Le 11, il est plus grand que le 14 et le 15.
Pourquoi on n'a pas fait célébrer la fête le 11? Ouais, dans le calendrier.
C'est pour ça qu'il faut apprendre que même, c'est ça l'idée. C'est que même dedans, il y a la partie révélée et il y a le caché. Donc même dedans, on est descendu encore plus bas. L'autre tête, on va le dire oralement. L'autre tête, Rabbi, c'est exactement ça. L'idée de Vatat et Tzavé, tout le monde connaît. L'histoire, on n'a pas dit le nom de Moshe Rabbeinu dans la paracha. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Dieu, si non, alors efface-moi de la Torah. Alors, il y a eu au moins une paracha en enlevé son nom. Quelle paracha en enlevé? Tu savais. Parce qu'il était mistalek, cette paracha. Ça, c'est marqué dans les livres. Rabbi explique à Pichasidut, il dit c'est l'inverse. Le nom de la paracha, c'est quoi? Les deux premiers mots. Ve'ata, c'est qui Ata? C'est Moshe. Ah, il n'y a pas son nom. Mais il y a qui? Il y a lui-même. Rabbi dit à Moshe Rabbeinu, qui dit à Dieu, voilà des juifs qui ont fauté. Et si on ne les pardonne pas, enlève-moi de ta Torah. Ça, c'est le etzem de Moshe Rabbeinu. Et le etzem, c'est au-delà des noms. Donc il dit, Mechénina, enlève mon nom. Le nom, c'est des Gilouim. Ce sont des choses qui sont révélées. L'etzem, il est plus haut. C'est exactement ça, le message de Megillat Esther. Ça veut dire que c'est dans un niveau qui est tout en bas. La personne, il a fauté, il est en bas. Et là-bas, Moshe Rabbeinu, il vient et dit, va ta, tu savais. Là-bas, il vient, il dit que c'est le etzem de Moshe Rabbeinu qui parle. Donc, que ce soit la fête de Pong, soit la lecture de la Megillah, que ce soit Moshe Rabbeinu, que ce soit le villageois, tout ça, c'est le même nekouda. C'est de prendre des choses qui sont voilées, de prendre des choses qui sont tout en bas, et aller là-bas, ressortir, et révéler le etzem de la chose. On va lire un passage ici dans le passage, dans la page 12. Pashkafa shitrit. Apparemment, Nire, ça semble, haouf, dans le fait, chelo, niskashmo, qu'on n'a pas mentionné son nom, c'était, lo, enol, malouta, c'est pas une qualité. D'accord? Et puisqu'on sait que même, on parle pas des choses négatives, même d'un animal dans la Torah, donc c'est évident que c'est encore plus haut. Hezber basé, le passage d'après, toujours dans la page 12, tzadikim domim lo boram, de la même façon que le mal, il y a les noms de Dieu, mais il y a tzmuto, muto, idbar, Dieu lui-même, qu'au-delà des noms, c'est la même chose chez un tzadik comme Moshe Rabbeinu. Le fait qu'on n'a pas mis son nom, c'est parce que la parasha Tetzavé, elle touche le atzmut, elle touche le etzem de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que ça commence par Ve'ata Tetzavé. Peut-être de là, on a répondu à la question, pourquoi est-ce que ça commence par le 11, une année où parasha Tetzavé tombe le 11, tout ça est relié. C'est le 11, commence sa première date. Le villageois, il lit la Megillah. C'est Parashat Tetzaveh. C'est Shabbat avant Purim. C'est la fête de Purim. C'est la lecture de la Megillah. Et tout ça, ce qui revient, c'est la valeur de celui qui est dans le village. C'est-à-dire que même dès qu'on comprend pas, même dès qu'on ressent pas, Dafka, ça, c'est pourri. Maintenant, il va expliquer à Pi Kabbalah, Pi Chassidut, c'est quoi le secret, pourquoi ça se passe le 11? Pourquoi c'est pas le 10? Pourquoi c'est pas le 12? On a dit, parce que si Purim est un dimanche, alors c'est jeudi, donc ça fait que c'est l'onze. Non. C'est beaucoup plus profond que ça. Il y a une vraie explication du secret du 11. On va dire un mot d'abord à l'oral et après on va faire son texte. C'est marqué dans le verset, Kiyad al-Keska, Milchama al-Hashem ba-Malek mi-Dor-Dor. Le nom de Dieu, il a combien de lettres? 4. Yud-Ke Vav-Ke. Marqué que le nom de Dieu, il sera jamais entier tant qu'Amalek, il est là. Dès que Moshiach viendra, il n'y aura plus Amalek, le nom de Dieu sera entier. Ça veut dire quoi entier, pas entier? Il y a plein d'explications. Une explication qui sont marquées, c'est comme ça. C'est quoi l'idée des quatre lettres du nom de Dieu, Yud-Ke, Vav-Ke? En général, on dit que Yud-Ke, c'est Chochma et Bina. Le Yud, c'est une petite lettre, c'est Chochma. Et le He, c'est large, c'est Bina. C'est l'intellect, la tête, le cerveau, la compréhension. Le Vav, valeur numérique, 6. Ce sont les 6 midot. Le dernier he, c'est malchut. C'est l'action, c'est les mains, les pieds, maase. Prends marshava, dibore maase. Yudke, ce serait marshava, la pensée, méditation, réfléchir, comprendre. Dibore, c'est expression. Et maase, c'est l'action. Des fois, on dit comme ça, des fois, on dit comme ça, mais ça, c'est d'une manière générale, on va dire les trois grandes lignes. On dit, il y a 4 mondes, Atzilut c'est le Yud, He c'est Bria, ensuite le Vav c'est Yitira, Asya. Dès qu'on a le village ici, village, les villes et la capitale, dans la lettre que le Rabbi écrit, il dit que la capitale entourée de murailles, on finit de lire quand? Le 15. 15 c'est Yudke. 15 c'est Yudke. Et le 11 c'est quoi? C'est Vavke. Donc en fait, le nom de Dieu qui est pas parfait, à cause d'Amalek, parce qu'il a divisé entre Yudke d'un côté et Vavke de l'autre. On dit qu'Amalek, il coupe la nuque. Il coupe le passage entre la tête et le cœur et l'action, ce qu'on a étudié dans le Mama ce matin, dans Torah Or, dans tous les Mamarim s'est ramené. Oui, se situe à Amalek. Lorsqu'un juif y voit la main de Dieu, il est émerveillé. Normalement, le cœur, il aurait dû suivre. Il coupe le contact. Le mot Amalek vient du mot Malak. Coupe la nuque. Il veut pas laisser qu'un juif, il a vu quelque chose alors qu'il le ressente. Ou des fois, on dit dans d'autres endroits, il veut pas laisser que si tu as ressenti, que tu mettes en pratique ta bonne décision. Donc les deux passages, de la tête au cœur, de le cœur à l'action, il coupe. Il intervient pour déranger. Un juif, il doit faire quoi? Jusqu'à que Mashiach vient, il doit se battre contre cette idée-là. C'est pour ça qu'on dit qu'Amalek, c'est sa fête, c'est le doute. Donc il doit se battre contre ça. Amalek, il vient couper le contact, et toi, tu dois toujours rattacher et faire le lien. Rabbi l'explique, surtout dans les autres endroits qu'il explique ce lien-là, il dit, c'est ça, Megillah Nikrat, c'est lu du 11 au 15. La mission d'un juif de Pourim, c'est de relier le 11 et le 15. De relier ces deux niveaux-là. Ça, c'est une Nukuda qui est ramenée dans d'autres endroits. Si le rabbin va expliquer aussi quelques de ces idées-là qu'on vient de répéter, et va aussi parler de l'importance des villageois. On va étudier ça sur texte. Ot Yud. Puis, Colonel Mouven, après tout ce qu'on a vu, on peut comprendre. Gam akesh le lien entre Megillah Nikrat et Yudalef avec lien de Parashat Zachor, Sechel Masa Amalek. Marqué dans le Shlar, Yudalef ou Kuminyan otiot vavke, Aminyan amrou betet vavke, Minyan yudke. Shlar il dit que c'est le 11 et le 15. C'est yudke et vavke. Lachem atchila mishnah Megillah Nikrat et Yudalef. Effacer Amalek, Aman Agagi c'est sa descendance, c'est lié avec la mission du 11. Il faut qu'on prenne le vav et le he. Comme c'est marqué dans Chazal, Yad Akeska Mecham Hashem Bamalek, En Hashem Shalem, le nom de Dieu ne peut pas être entier, il n'est pas réuni, tant qu'Amalek est là. Comme Hashem Amalek Hayam, le nom de Dieu, Kavayachol Enu Bishlemut, il n'est pas réuni, il n'est pas Murkav, il n'est pas bien composé, mais il n'est que Yudke, Zotomeret, Amalek Menaged, page 13, en haut de la page, Amalek qui s'oppose au Tiot Vavke Shashem Havaye. Lui, ce qu'il veut, il laisse Yudke d'un côté, mais il veut pas le Vavke, il veut pas que ça passe au cœur, il veut pas que ça passe à l'action. C'est l'idée, il connaît son créateur, mais il fait l'inverse de sa volonté. Il sait, et il veut pas que ça ait un effet sur son comportement. Ha'idia besechel, ve'gashale prinat Yudke, lo yifalu, ça n'est pas d'effet, son marchava di bomas et shlo tora mitzvot au niveau de Vavke. Ici, si vous remarquez, il explique que le yud et le ke, c'est la tête et le cœur, et le vav et le ke, c'est l'action. Mais comme je dis, dans certains endroits, c'est expliqué différemment. C'est comme ça dans Chassidut, il y a des fois, ce nyan, il expliquait comme ça, des fois comme ça. Voilà, chen. Kedesh eskriat mas amalek tiye kedebae, pour pouvoir se souvenir d'amalek comme il faut, shizem evi le kiyum achotim chezek amalek efase amalek, il faut qu'il y ait le travail du 11. C'est quoi ce travail? Il dit comme ça, avoda amitit, esekator mitzot, Bekol vidibrema, c'est de s'assurer, ça reste pas dans la pensée, mais s'assurer que ça soit dans la parole et dans l'action. Avada amiti didavka shebe kabalatol. La vraie mission pour combattre Amalek, c'est quoi? C'est que les pieds y suivent. C'est que le dernier hé y suive. C'est que la parole elle suive. Kabalatol. Bedugma d'avada shebe nakfarim. Ça ressemble à ce qu'on a étudié avant dans la Sikha, les villageois. Ils sont dans un obstacle, ils sont dans un helem, ils sont en train de labourer la terre, et eux, ils se fatiguent. Les deux premières lignes de la colonne de gauche, c'est la Nukuda de la Sikha. C'est Davka par eux et par cette mission-là qu'on va combattre Amalek. Quelqu'un qui va développer son sechel, il n'est pas en guerre contre Amalek. Amalek, il accepte. Quelqu'un que ça passe au cœur, il n'accepte pas le Khatrila, mais encore Bediavad, il accepte aussi. Ce qu'il veut surtout pas, c'est que ça passe à l'action. Dibour, maase, marchava dibour et maase, ça dépend comment on voit la chose. Il veut pas que ça descende jusqu'en bas. Donc, qui fait vraiment la vraie mission de Pourim? Qui est celui qui se bat vraiment contre Amalek? C'est surtout le villageois. C'est surtout celui qui n'a pas le côté intellectuel, il n'a pas le côté sentimental, et Dafka, il se bat. Ou bien celui qui a le côté intellectuel et sentimental, mais qui n'a pas descendu à l'action, il doit faire le travail du villageois. Le message du villageois, il est à tout le monde. Celui qui est vraiment un niveau du villageois, ou celui qui est au niveau de la ville, mais il lui manque Bitoul et Kabbalatol. Bah, les deuxièmes Agim, et c'est comme ça qu'on retrace et on remonte au 15, que ça c'est Mochin, Shebna Akrachim. Alors il faut que ce soit dans le bon seder. Le bon seder c'est quoi? Comme la Mishnah l'a écrite. Le secret de la Mishnah, il te dit exactement le seder. Qu'est-ce qu'il dit? Megillah Nikrat, comment tu révèles le secret? Il y a un seder. Repars du Kabbalatol, reprends du 11 et tu vas remonter jusqu'au 15. Davka Nasa Hashem Shalem et comme il dit au Kesidro. C'est là, il y aura dans son vrai seder le nom de Dieu comme il faut. Comme c'est marqué dans la Mishnah, on commence au 11, on va finir au 15. Tu veux t'achona chalot acha Shabbat, chas kom nakam buda, prenavak nasadnon shlema shel kashbor, c'est encore une autre nekuda. Vezeh yebegalou b'shem de Paul b'yad mashazikenu, chas yeh agmar shem mechama shem b'amalek m'dor dor dar adama kam shicha, ki ilchom l'chem et Hashem v'inatseach. Shicha le rabbi dit que cette Mishnah en fait elle nous révèle le vrai secret de Purim, et d'Afka le 11, qui veut dire celui qui est dans le village, celui qui est Kabbalatol, ça nous a expliqué qu'il y a le 11, 12, 13, c'est ceux qui sont dans le village, le 14, il est dans la ville, le 15, entouré de murailles, trois niveaux de personnes, la tête, le cœur et l'action, et en fait, tout le secret de Purim, il tourne autour, révéler le secret des choses. La Megillah, écrit par Esther, qui représente ce fameux voile, obstacle, Esther c'est un voile, et ça il faut révéler, et la manière comment elle a obtenu Purim, la manière comment elle a obtenu l'écriture de la Megillah, c'est devenu la plus grande fête, c'est devenu la plus grande Megillah. Et en fait, si c'est comme ça, on a compris un petit peu ce que c'est le 11-13. Alors on comprend que ça c'est aussi lié à Tatetzav, et Moshe Rabbeinu il efface son nom pour arriver au Etzem. La Nekuda de tout ça, c'est qu'il y a un Etzem dans chaque chose, il fallait le chercher, plus c'est bas et plus on va le chercher, plus c'est haut. Que ce soit dans Purim, dans la Megillah, dans Esther, dans Moshe Rabbeinu et dans le 11-13, villageois, Olamassia, Kabbalatol, Bitoul, toute cette Nekuda-là qui revient dans la Sicha. On est dans un Shabbat qui est très important, c'est le Shabbat qui précède Purim, le Shabbat dans lequel on va effacer Amalek, et surtout dès qu'on est le 11 du mois. Dans le Kovet, vous avez en page 13 en bas, vous avez le télégramme. Rabbi souhaite Purim Samech et Shabbat Shalom. Il te va dire, bofan d'akel, vetismach, metora, vesimcha, vesasson, vikar, bachlatot, tovot, mutsachot, borazutor, kochot, pirushi, chazal. Rabbi dit de faire des fabriens, qui est un Purim Samech avec un Shabbat Shalom, vekiflan, motishia, c'était la même kviout, ça veut dire que le rabbi l'avait écrit le télégramme avant Shabbat déjà. Purim Tashimchet était un mardi. Chaim Chaim Levach Vaismar Tek Mamash Gulat Purim Zeh Gulatim Tachinat Dem Shir Tzikeinu. Et sinon vous avez ici dans le kovetz, ça serait bien que chacun l'étudie. Vous avez une lettre que le rabbi l'a écrit le 11 Adar. Maintenant on voit pourquoi il choisit le 11 Adar. Le 11 Adar, il amène la lettre dans laquelle il dit que Yom HaKagarim, comme la Mishnah est dit, la Megillah, elle est lue depuis le 11, donc le Rabbi parle de Miftza Purim, de faire un effort que chacun il ait ce qu'il faut, par le Dibur, en parlant aux Juifs autour de nous, par le Maasé, par l'action, et en mettant en place un lecteur de Megillah, un lecteur de Kriyat HaTorah, des Mishloach Manot tout prêts pour faire Miftzaim, et mettre des pièces de Tzedaka, donc même si dans les paquets il n'y a pas, chacun il s'organise à prendre un petit sac avec des pièces, une boîte de Tzedaka toute la journée de Purim, pour faire pashut à chaque personne, maximum de juifs. Donc, le rabbi dit que si ce sont les deux mitzvot si faciles à faire, les shlach manot et matanot, et même c'est qu'elles sont plus importantes que même la lecture de la Megillah, et c'est pour ça qu'il faut passer maximum de temps dans la journée pour toucher un maximum de personnes qui fassent ces deux mitzvot-là. Matov d'associer à kitur d'ilchot pour imatzichot, c'est pour ça qu'il y a le guide, donc prendre un paquet de guides et distribuer, et que dedans il y a aussi un kitur de l'historique de Purim et Tok Foshenes. Rabbi dit aussi de faire surtout très attention, savoir que c'est pas une lecture du passé, mais comme le mot du Baal Shem Tov, c'est qu'il faut savoir que c'est une partie de la Torah et qui se révèle et se répète chaque année. Et le Rabbi souhaite que ce soit Noach Moivem de tous les ennemis, la Yudim Aita Orab, Simcha Vesasson Vikar. Rabbi rappelle aussi dans d'autres sirotes de réétudier les lois de Purim avant que Purim ne vienne, et apprendre des Mamarim de Purim avant que Purim n'arrive, et faire un maximum de Mifsaim autour de Purim. Rabbi l'avait dit à Shiyut que effacer Amalek, on peut pas le faire sans Moshe Rabbeinu. Donc c'est sûr que dès qu'on vient Shabbat Zachor, on a l'aide du Rebbe pour pouvoir combattre tous les Inyanim qui sont les Sfekot et les doutes et Inyan d'Amalek. Shabbat Shalom à tout le monde à Goutsav.